Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
C'est la suite des grands débats du matin, hein, toujours avec Franck Ramus, qui est chercheur en sciences cognitives et membre du Conseil scientifique de l'éducation nationale, Elisabeth Lévy, Françoise Degoy, et vos appels 0826-300-300. Est-ce que vous estimez que le niveau scolaire a baissé? Est-ce que vous avez vu sur vos enfants, effectivement, qu'il c'était plus difficile pour eux? Appelez-nous tout de suite au standard.
Oui, y avait cette question qu'on évoquait juste avant, et on va y répondre, parce que pendant, évidemment, la pause, le dialogue tournait autour de ça. comment faire non, mais c'est vrai, pour que... les élèves se sentent bien avec des profs et puis que les profs ont et des cours qui soient adaptés à ces élèves. C'est un problème de formation permanente, quoi, un petit peu, pour que tout le monde soit... C'est pas qu'un problème d'ailleurs de connaissances, hein, bien souvent.
Si non, donc la question qui était soulevée juste avant la pause, c'était de savoir est-ce que les enseignants sont déjà bien formés dans la discipline qu'ils doivent enseigner. Et notamment, la question des maths était soulevée. Je pense que le niveau des enseignants en maths, c'est peut-être un problème à l'école élémentaire, là où les enseignants enseignent toutes les matières et ils sont recrutés majoritairement sur des profils littéraires et eux-mêmes sont pas forcément très confortables en maths. Après, ceux qui sont recrutés sur CAPES ou agrégation pour enseigner les maths au collège ou au lycée, eux, ils ont largement le niveau nécessaire en maths. En fait, en France, on a plutôt le problème inverse, qui est qu'on recrute, on sélectionne les enseignants quasiment exclusivement sur leurs compétences dans la discipline à enseigner, mais en se préoccupant très peu de leur capacité à enseigner, de leurs compétences pédagogiques. Et ça c'est un vrai problème, parce que pour enseigner, il suffit pas de savoir quelque chose, il faut aussi savoir le transmettre. Et donc les enseignants sont peu sélectionnés là-dessus, et du coup c'est dans la formation qu'il faudrait rattraper ça, qu'il faudrait vraiment leur enseigner l'enseignement, la pédagogie. Et bon, à ce stade, je dirais la formation fait ça encore de manière imparfaite.
Oui, oui. Elisabeth Lévy, faudrait... Françoise Degoy. Elisabeth, oui.
Non mais justement sur la pédagogie, vous connaissez tous ces débats bien sûr, mais si vous voulez, pendant des années, on a eu les IUFM remplacés par les ESPE, je crois. Et ce qu'on en savait, moi j'ai fait des reportages sur les IUFM, c'était quand même une conception de la pédagogie parfois délirante. Alors, on se rappelle tous les exemples sur le jargon, sur... si vous voulez, ça me paraît aussi... la pédagogie, c'est très bien, encore, ça dépend laquelle. Et la deuxième chose, je vous pose la question très vite, il y a aussi la question de l'autorité du prof et du soutien de son administration, parce que il y a maintenant une composante quasiment disciplinaire dans ce métier.
Ouais, ça, c'est vrai. Franck Ramu, oui.
Oui, oui. Donc, on est d'accord que, bon, il y a pédagogie et pédagogie, il y a différentes théories, etc. Et c'est vrai que par rapport à ce qui était enseigné dans les IUFM il y a 20 ans, on part de très loin. Et voilà, les IUFM ont été transformés en ESPE, les ESPE en INSPE. Bon, ce sont que des changements de sigle, mais bon, globalement, les contenus de formation des enseignants progressent petit à petit, lentement, etc. L'enjeu, c'est d'accélérer tout ça et de centrer toute cette formation vers des contenus qui ont vraiment fait une preuve de leur efficacité. Donc, par exemple, vous parliez de l'autorité du prof. Il y a différentes approches, finalement, de la discipline dans la classe. Il y a des approches qui sont plus autoritaires et punitives. Bon, moi, pour avoir étudié beaucoup ça dans la psychologie, dans les recherches en psychologie, en fait, ce qu'on sait qui est efficace, ce sont pas les approches punitives et autoritaires, ce sont les approches qui marchent par récompense, par exemple. Donc, vous voyez, il y a tout un pan de la psychologie qui est bien connu des chercheurs en psychologie, mais qui est totalement inconnu à la fois des enseignants et du grand public, et qui mériterait d'intégrer beaucoup plus largement la formation.
Oui, allez, encore un mot, Françoise Degoy.
Est-ce que, venant d'une famille old school, tout le monde étant prof chez moi, de l'instit au prof de Polytechnique d'ailleurs, est-ce que au fond, tout ça, la principale difficulté n'est pas le changement de l'écosystème général en réalité, de tout ce qu'on demande et toute la charge qu'on met sur un professeur, de la difficulté aussi dans sa relation avec les parents d'élèves, des parents d'élèves de plus en plus... Enfin, je veux dire, un prof, c'est pas un distributeur, c'est pas vous êtes là, je vous paye pour que vous enseigniez. Cette relation qui s'est dégradée dans certains endroits, pas simplement les quartiers d'ailleurs, entre profs, est-ce que c'est pas l'écosystème qui a changé? La génération de mon père, de ma mère, de mon oncle et tante, c'était plus intuitif. On faisait de la pédagogie plus à l'intuition. Vous comprenez ce que je veux dire? Et ça n'est plus possible dans l'environnement. Est-ce que vous pensez que ça, c'est juste ou pas?
C'est sûr que la société évolue et que le travail d'un prof, c'est quelque chose de très complexe, qui a plein de facettes différentes.
Vous faites avec 40 personnes, dont 20 ne veulent pas apprendre dans des classes surchargées.
Je suis convaincu que c'est très compliqué. Pour moi, être un bon enseignant, c'est aussi compliqué qu'être un bon médecin ou un bon ingénieur. C'est pour ça la formation devrait être au même niveau que celle d'un médecin ou d'un ingénieur. Mmh.
Et
après, la société...
Et le salaire, du coup.
Et le salaire.
Et une fois que la formation sera au niveau, oui, aussi. Mmh. Après, voilà, c'est compliqué pour tout le monde partout dans le monde. C'est pas que comme ça en France. Et il y a quand même des pays qui font beaucoup mieux que nous. Mmh. Donc, je pense qu'on a quand même des marges de progression.
Sans être forcément mieux payé, c'est ce que vous disiez. Il n'y a pas de corrélation entre la qualité de l'enseignement et le salaire.
C'est pas directement lié, non.
Oui. Bon, en tout cas, vous travaillez sur ce sujet, justement sur la psychologie. Hein, c'est ça aussi.
Oui, voilà. Moi, je suis chercheur en psychologie. Et justement, comme j'ai identifié que la psychologie, c'était une des carences particulièrement évidente dans la formation des enseignants, je me suis dit, il faut faire quelque chose. Et comme je ne peux pas parcourir toutes les académies pour faire la formation continue, je me suis dit, il faut faire un cours en ligne, un MOOC. Et donc, j'ai préparé un MOOC.
On va aller regarder ça, Elisabeth, le MOOC.
De psychologie pour les enseignants.
Et vous avez pour les journalistes, non?
Mais tout le monde peut le suivre. C'est libre, c'est ouvert à tous. Et ça va sortir d'ici quelques mois.
On suivra ça. Merci, vous reviendrez en parler. Franck Ramu, chercheur en sciences cognitives et membre du conseil scientifique de l'éducation nationale. Sans langue de bois. Sans langue de bois, vous allez rester un instant aussi, Françoise Degois et Elisabeth Lévy, puisqu'on va revenir sur Marseille. Emmanuel Macron, il a tapé, évidemment, où il tape, entre guillemets, sur les trafiquants de drogue. Et il dit aussi les consommateurs. Quoi. Il dit qu'il faut punir aussi, ils sont complices. Qu'est-ce que vous en pensez? On aura justement un représentant des policiers dans un instant avec nous, de parler tout à l'heure dans La France à vos côtés, Cécile.
On parlera des purificateurs d'air, et bien sûr, dans les écoles aujourd'hui, avec un acteur qui fabrique des purificateurs d'air et un maire qui en a installé dans cette école. Et on verra combien ça coûte, comment ça fonctionne et si c'est vraiment efficace.
Oui, allez, à tout de suite.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
C'est la troisième partie des grands débats du matin et on va revenir à Marseille. Les consommateurs de drogue sont-ils des complices, comme le dit Emmanuel Macron.
Oui, vous l'avez entendu ce matin, il l'a dit hier, bien sûr, on a diffusé ce petit extrait. Donc il tape sur un peu les trafiquants de drogue, mais aussi sur les consommateurs. Alors c'est pas complètement faux, Françoise Degois.
Qu'est-ce que ça crée comme valeur? Dire, oh là là, vous achetez de la drogue, c'est pas bien, vous êtes complice, à ceux qui la vendent. Ça n'a aucune utilité.
Comment c'est perçu aussi dans la police? Tiens, David Reverdy est avec nous, secrétaire national d'Alliance Police pour justement région. Bonjour.
Bonjour.
Comment vous avez perçu, vous, hier, ce message d'Emmanuel Macron lié aux consommateurs, quoi?
Alors, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que c'est pas une nouveauté.
Non.
Ça fait déjà plusieurs mois que le ministre de l'Intérieur a mis en place une amende forfaitaire délictuelle, c'est-à-dire qu'on paye une contravention, quoi, qui reste un délit, mais on paye une somme d'amende lorsque l'on est consommateur. Donc ça existe déjà, par contre, ce qu'on aimerait, nous, effectivement, c'est avoir le bilan de ce dispositif, parce que les policiers l'utilisent beaucoup, mais par contre, quel est le taux de recouvrement? C'est-à-dire que si la personne qui reçoit cette amende ne la paye pas, ça ne changera rien. Donc nous, on fait notre boulot, et après, est-ce qu'il y a des poursuites si la personne ne paye pas? Et ça, c'est vrai qu'on aimerait savoir.
David Reverdy, vraiment, est-ce qu'on vous demande d'aller traquer les consommateurs de cannabis et de drogue, ou plutôt les trafiquants? Et vous, est-ce que vous choisissez, entre guillemets?
J'allais vous dire, c'est deux choses complètement différentes. Elles sont liées, mais différentes. Les collègues de services d'investigation, qu'ils soient de la sécurité publique ou de la police judiciaire, travaillent sur des réseaux.
Oui.
Ils travaillent sur démanteler des réseaux. Et les collègues qui exercent sur la voie publique, eux, ne sont pas là pour faire des enquêtes sur des réseaux, mais plutôt s'attaquer aux consommateurs et aux gens qui possèdent sur eux ou qui fument du cannabis sur la voie publique. Mmh. Donc c'est deux choses différentes, mais malgré tout qui sont liées. Et effectivement, le phénomène de la drogue est un phénomène global entre le consommateur et le vendeur.
Oui. Elisabeth Lévy.
D'abord, ça semble, si vous voulez, factuellement, ça semble évident que s'il n'y a pas de consommateur, il n'y a pas de, dealer.
Hein. Ouais.
Je veux dire, c'est une question de marché, hein, c'est clair. Simplement, je me demande tout de même s'il ne faut pas, et je sais que ça n'a pas bonne presse de dire ça, mais j'avoue que j'ai changé d'avis là-dessus. D'abord, je ne pense pas qu'on puisse parler des drogues en général. Vous avez je ne sais pas combien de millions de fumeurs de cannabis, c'est pas tout à fait la même chose que ceux qui prennent du crack au jardin des Halles, oui. Quoi qu'on en dise. C'est un très gros problème de santé publique, notamment pour les jeunes, pour les adolescents, parce qu'on sait en plus que c'est à cet âge-là que le cerveau est le plus menacé. Donc ça, c'est tout à fait vrai qu'il faut faire porter un effort là-dessus. Simplement, j'ai quand même le sentiment que depuis que l'histoire a commencé, il n'y a pas de société humaine où on ne prenne pas des substances psychotropes pour adoucir un peu la vie, pour, disons, adoucir le réel. Et les tentatives de prohibition, la prohibition du cannabis aujourd'hui me semble être une fausse prohibition. Tout le monde sait qu'elle n'est pas respectée. Vous avez
donc,
sur internet.
Si je vous suis là, acheter... vous voulez en venir à la légalisation du cannabis, alors, Elisabeth Lévy.
En tous les cas, si vous voulez, ce que je vois, je ne dis pas ça de gaieté de cœur. Ce que je vois, si vous voulez, c'est que on sait très bien qu'aujourd'hui, vous avez sur internet des livreurs, des comme les pizzas, quoi. Vous pouvez commander du cannabis comme vous commandez une pizza.
Par
vous avez
aussi.
Des millions de fumeurs de cannabis de tous âges, de toutes conditions sociales, de tout milieu, etc. Des millions. Donc, ça veut dire que cette prohibition, malgré tout ce qui a été essayé, je sais que la police fait beaucoup de choses, que le ministre de l'Intérieur dit ça exactement, cette prohibition est une fausse prohibition. Donc, à un moment, je crois qu'il faut en tirer les conséquences, et je crois que ce truc disant, attention, la drogue, c'est la drogue, bah non, le crack et le cannabis, c'est pas pareil. Il faut quand même arrêter de raconter ça.
Je suis d'accord, quand on voit les expériences menées, notamment au Portugal, je lisais un papier là sur le Portugal, qui disait qu'évidemment, ils ont réussi à réduire la criminalité, parce qu'on va toujours chercher l'exemple du Colorado, etc., mais il y a des exemples très proche de nous, en Europe, en Italie, vous avez des bars, tout ça est réglementé. Et alors, après, oui, non, moi, ma tendance, c'est plutôt de dire qu'il faut le légaliser pour les raisons évoquées par Elisabeth, mais je pense qu'au moins, ça mériterait un vrai débat, et malheureusement, nous n'aurons
absolument,
pas. Évidemment,
oui,
ce débat, nous ne l'aurons pas, car nous rentrons dans une année présidentielle.
Oh ben, ce sera mis sur la table quand même par certains.
Sera, oui,
Sandrine
mis...
Rousseau, qui était invitée ce matin, veut le mettre sur la table, par exemple.
C'est un vrai débat,
si elle est candidate.
Qui sera, comment dirais-je, évidemment, mis aux oubliettes parce que l'immigration, l'insécurité va reprendre le dessus. Mais je veux dire que ça, c'est un vrai débat de société hyper intelligent et où on pourrait tous regarder.
L'insécurité, c'est lié aussi à ça, avec les trafiquants de drogue.
On arrive à converger, Elisabeth Lévy et moi, sur une position commune. Oui. C'est vous dire si la question est importante.
C'est la journée du consensus.
en tout cas, David Reverdy, vous voudriez que ce soit abordé, cette question, parce que, évidemment, à Marseille, je ne sais plus combien de points de deal il y a, mais il n'y a pas que Marseille, dans d'autres villes.
Il y a 46.
À Avignon, on a vu les règlements de compte, à Cavaillon,
à Nîmes,
un peu partout.
Pas.
Il y a la guerre des territoires, quoi, c'est ça. Hein.
Oui, c'est ça, mais alors que ce problème soit abordé, bien évidemment, c'est un problème de société, donc là-dessus, il n'y a pas de débat. Par contre, ce qu'on peut aussi, et ça c'est du factuel, c'est qu'on parle du cannabis, très bien, mais derrière, il n'y a pas que le cannabis. Vous avez une hausse exponentielle des saisies de cocaïne, et donc ça veut dire que demain, va-t-on aussi légaliser la cocaïne ? Et pour en revenir au cannabis, vous avez des mineurs qui consomment de plus en plus jeunes du cannabis, l'État va-t-il vendre de la drogue à ces mineurs ? Donc en fait, il y aura toujours un marché parallèle du cannabis, ça c'est un véritable problème de santé publique, et il faut peut-être pas se voiler la face. Si on n'arrive pas aujourd'hui à endiguer les trafics de cannabis, plusieurs choses, comment va-t-on endiguer les trafics de cocaïne et autres qui explosent eux aussi, parce que ce sont les mêmes qui revendent ces mêmes produits de mort, ce sont les mêmes. Donc il n'y a pas de raison qu'on arrive pour une drogue et pas pour l'autre. Et deuxième chose, c'est le problème reste entier d'un point de vue de la santé publique et de la revente, notamment sur les mineurs qui sont des consommateurs extrêmement nombreux aujourd'hui, malheureusement.
Oui. Merci, David Reverdy, secrétaire national d'Alliance Police pour la province. On y reviendra, bien sûr, dans les débats, peut-être tout à l'heure aussi avec Valérie Expert entre 11h et midi. Puis on reviendra aussi, d'ailleurs, sur cette question du fameux nettoyage. Mais ça, c'est...
C'est les villages Potemkin, c'est classique. C'est la visite de tous les présidents, c'est
comme ça.
Oui,
mais enfin bon...
Mais là, il y a un vrai problème de nettoyage à Marseille.
De toute façon.
C'est vraiment un scandale syndical.
D'accord.
Si vous voulez, il y a une espèce de chantage permanent du syndicat de la voirie, là, je sais plus comment ça s'appelle, qui est un syndicat FO, et qui fait, si vous voulez, c'est tout le temps à Marseille, c'est tout le temps. Vous savez que c'est dire, vous arrivez, ouais. Vous avez des
bon,
tonnes de...
En tout cas, on a fait nettoyer hier, on a fait appel NAS, là, à des sociétés privées quand même hier, quoi. C'est ça. Voilà, là, donc, ça pose un problème quand même.
Non, mais ça dit tout de...
Forcément, puisque le syndicat fait les pieds au mur.
Oui, et puis ça dit tout de toute la mise en scène, pas simplement macronienne. Bien sûr que Emmanuel Macron n'est pas le premier, mais il pousse de façon paroxystique cette folie monarchique républicaine française. Et moi, je pense que ça devient... On est à un point de bascule pour moi. Je trouve que cette débauche d'image avec ce nettoyage, avec tout ce que Emmanuel Macron porte, la façon dont c'est relayé, etc., ça me pose un véritable problème profond. Je ressens maintenant un malaise vraiment
et
réel par rapport
participé,
à ça.
Hein. Non, mais et moi, nous avons participé.
Oui, de
mais,
ça.
Mais allez. Nous participons, au moins nous commentons, en essayant d'avoir un regard critique, c'est pas mal.
Pièce
déjà.
Dans alors, la machine, François Degois, Elisabeth Lévy. Oui, bien sûr, on y reviendra dans les grands débats tout au long.
Bref, voilà. On parlait de nettoyage, ça tombe bien, c'est la transition est toute trouvée avec les purificateurs d'air. On en parle dans quelques instants avec nos invités, avec des acteurs. Il y aura un maire, le maire de Mennecy, dans le 91, et la société JVD à Nantes, très connue pour ses équipements d'hygiène. Restez là, 9h40.
C'est le la matin, France à vos côtés. C'est le absolument. Rendez-vous où nous donnons la parole aux gens qui se battent, en fait, qui ont des idées, qui veulent faire avancer des initiatives chaque matin. Vous pouvez réagir là-dessus, hein, sur ces purificateurs d'air.